expérience, je m'étais amusé à laisser un tas de déchets. La semaine d'après, on en avait 4. Et ça m'avait stupéfait parce que je me suis dit, mais merde, comment ils ont su qu'il y avait un tas de déchets ici? Eh ben, c'est incroyable, il faut croire qu'ils ont le pif pour ça et que le déchet appelle le déchet. J'avais sous-estimé à quel point c'était vrai. Et du jour où on a enlevé ce tas de déchets ici, c'était terminé.
RFI, grand reportage.
France Bleu 107.1, on est bien ensemble.
Un village de près de 3000 habitants qui se réveille encore sous le choc. Tous ont appris hier en fin d'après-midi le décès brutal.
En août dernier, le maire d'une petite ville du sud de la France est mort sous les roues d'une camionnette dont le conducteur allait déverser ses déchets illégalement au lieu de les livrer à la déchetterie la plus proche. Les décharges sauvages sont devenues un véritable problème, un véritable fléau face auquel les collectivités se sentent démunies. Déchets sauvages, halte à l'invasion, un grand reportage d'Agnès Rougier.
On va arriver dans l'une des plus emblématiques et des plus vastes décharges sauvages, peut-être qu'on peut trouver sur le territoire.
Il paraît que c'est la plus grande décharge sauvage de France, mais en tout cas d'Île-de-France. C'est vrai qu'elle est assez volumineuse. En l'occurrence, on a répertorié 7000 tonnes, peut-être plus, de déchets à nettoyer. Et sur une surface de plus de 47 hectares, on a fait une carte. On a localisé toutes les zones, une par une, pour avoir une cartographie complète et détaillée des déchets qu'il y a sur la plaine.
Nous sommes avec Alban Bernard, président de l'association Stop Décharge Sauvage sur la plaine, dans la boucle de Chanteloup, un méandre de la Seine. C'est un immense espace d'anciennes terres agricoles situé au confluent de trois villes, Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, à une trentaine de kilomètres de Paris. Devant nous s'étend l'un des 180 dépôts sauvages répertoriés sur le territoire français. C'est un océan de déchets qui ondoie au fil d'état de 2 mètres de haut. Ici, nous sommes au royaume du BTP, secteur démolition. Les matériaux entassés ici proviennent en majorité de bâtiments qui ont été détruits et les responsables de chantier n'ont pas jugé bon de les déposer dans une déchetterie officielle.
Le tas là-bas, là, c'est que de l'amiante. Là.
Là-bas, le petit tas qu'on voit voilà. Dans le champ, ouais.
Donc la plupart, hein, c'est des tôles fibro-ciment qui sont généralement employées sur des toitures de garage. Voilà. Donc ça, c'est la mer des déchets.
Là, on arrive devant
ce qu'on a appelé la mer des déchets, qui représente 1 hectare sur les 47 hectares à nettoyer. Déjà, rien que là, c'est impressionnant. Alors, je vous laisse imaginer le reste. Mais sur toutes les autres zones, finalement, c'est des déchets qui sont éparpillés, un peu plus que ça, évidemment. Ce qu'on a surnommé l'océan des déchets, c'est plus grand, plus éparpillé, mais entre, de toute façon, il y a plein de déchets partout, quoi. On a fait une vidéo qui vous montre un petit peu la chronologie de ce qui se passe dans la plaine. Et on voit clairement hein, qu'à partir de 2012, on a un début de mise en place de décharges. Et voilà, c'est vrai qu'en 2016, ça a été l'apothéose. Quoi.
Oui, ben, j'ai vu une série de photos tirées de Google Earth où on voit...
C'est ça.
Voilà. Si moi, j'ai un tigre dans la gorge. Où on voit, effectivement...
Non, c'est la pollution d'ici, vous inquiétez pas.
ça retrace la construction, vraiment, de cette mer. On l'a vu arriver, donc...
C'est ça le problème, c'est qu'en plus tout le monde savait en fait ce qui se passait. Alors le problème c'est que comme c'est loin des routes et que c'est à l'abri des regards, on voit pas, on veut pas savoir.
Revenons un peu en arrière, car l'histoire de la plaine n'est pas simple. Nous sommes là sur une ancienne zone maraîchère, découpée en parcelles où l'agriculture a été rendue possible parce que l'épandage des égouts de la ville de Paris fertilisait ces terrains. Mais après 50 ans d'épandage, on s'est rendu compte que la terre était polluée par des métaux lourds toxiques, du plomb notamment, et le préfet des Yvelines a signé, en 2000, un arrêté pour interdire toute culture à destination de la consommation humaine.
Alors moi, je m'appelle Bruno Pivat.
Retour sur la mer de déchets.
Je fais partie aussi de l'APEA, c'est l'association des agriculteurs, des propriétaires de la plaine.
Parce qu'en fait, vous, alors vous êtes propriétaire d'un petit terrain qui lui-même est pollué ou pas? Vous êtes dans quelle
Moi, mon beau-père, il a 94 ans, il a travaillé ici, il vendait ses légumes, après il allait aux Halles les vendre. Et moi, en fait, j'ai planté des arbres sur ces terrains. Ces arbres-là, juste à côté de la décharge, c'est moi qui les ai plantés. Donc ça fait 15 ans. Là-bas, j'en ai planté d'autres. J'ai 6 ou 7 parcelles comme ça où j'ai planté des arbres.
Donc ces arbres qui sont en train de pousser là, au milieu des
déchets. Au milieu. Ils ont mis les déchets au milieu de mes arbres. Là, ils sont grands. Ils mesurent déjà 15-20 mètres, les arbres. Là.
Bah oui, vous les avez plantés quand?
Bah, il y a presque 15 ans. Des acacias, là-bas j'ai des châtaigniers qui donnent des châtaignes. On aurait pu faire ça dans toute la plaine, planter des arbres.
Pour comprendre comment on en est arrivé là, direction la mairie de Triel-sur-Seine.
Bonjour madame.
Ouais,
super.
Joël Mancel, je suis le maire de Triel-sur-Seine depuis 2008.
Alors Triel-sur-Seine, l'une des villes qui borde cette fameuse mer de déchets. Est-ce que ce sont les maires qui sont responsables de ce qui se passe sur leur commune en termes justement de déchets sauvages?
Les maires, si c'est un terrain communal, oui. Mais comme là, ce n'est pas le cas, hein, il y a énormément de propriétaires terriens. Donc c'est normalement les propriétaires qui doivent aussi faire l'alerte et faire déplacer la police, faire un constat de police. Hélas, dans cette plaine, il y a pratiquement plus de 200 propriétaires, donc ça n'a pas bougé.
Mais Anthony Effroy, président de l'association Rives de Seine Environnement et conseiller municipal d'opposition à Carrières-sous-Poissy, la deuxième ville au bord de la mer, n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse.
Alors, on est effectivement sur des terrains privés qui sont très morcelés, puisque souvent résultant d'indivisions dans le cadre de successions, puisque c'est des anciennes familles d'agriculteurs qui en étaient propriétaires. Et aujourd'hui, vous avez une multiplicité de ces parcelles. Néanmoins, il ne faut pas prendre cet élément comme un élément ayant permis l'installation de cette décharge, puisqu'il faut rappeler qu'en 2014, il y a une charte agricole qui a été signée entre la communauté d'agglomération, les associations de propriétaires terriens et les communes concernées. Et dans cette charte, en fait, la communauté d'agglomération s'engageait à prendre à sa charge toute la problématique liée aux dépôts sauvages. Donc elle devait assurer la signalétique, la fermeture des accès si besoin. Donc on peut dire d'une certaine manière que les agriculteurs, enfin en tout cas les propriétaires de terrain, ont fait confiance à la communauté d'agglomération qui avait pris à sa charge cette compétence. Et malheureusement, on voit que cette mission n'a pas été assurée convenablement.
Pour justifier l'inaction, on invoque notamment les réformes administratives successives. De fait, la communauté d'agglomération des deux rives de Seine, qui comprenait 12 communes dont Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes et Carrières-sous-Poissy, s'est transformée en 2016, dans la perspective du Grand Paris et des Jeux Olympiques de 2024, en communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, avec cette fois 73 communes. Néanmoins, les maires des trois communes concernées étaient déjà et sont toujours partie prenante des différentes administrations. Nous avons donc posé la question à Joël Mancel, le maire de Triel-sur-Seine. Qu'est-ce qui a été fait pour endiguer l'invasion des déchets dans la boucle de Chanteloup?
On l'a vu effectivement, hein, on l'a vu grandir. Certes, on n'y allait pas tous les jours. Hein, quand on s'aperçoit aujourd'hui de l'ampleur sur pratiquement 4 hectares, je crois, de mémoire, c'est énorme, énorme. Et bon, les dépôts se sont succédés nuit et jour.
Ce sont majoritairement des déchets de construction, de déconstruction.
Ah oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Ce sont des travaux qui sont faits chez les particuliers ou même dans les grandes entreprises. Hein. On a fait des recherches et on a retrouvé aussi des papiers qui appartenaient à des entreprises parisiennes. Mais bon, c'est une zone que personne ne fréquente et c'est pas visible d'une route. Il faut vraiment aller sur place pour le voir.
Et c'est pour ça que personne n'a rien fait?
Alors, personne n'a rien fait. Si, on a pris des arrêtés avec le maire de Carrières-sous-Poissy. On a pris des arrêtés de circulation dans cette plaine. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on n'était pas là pour surveiller. On avait mis quelques caméras, notamment. Mais bon, on a retrouvé quelques personnes. On a bien vu des images. Mais c'est tout. Je veux dire, on n'a vraiment pas eu l'occasion de prendre les gens sur le fait. Quelques-uns seulement.
Mais si, justement, il était possible d'attribuer, de trouver les entreprises, ça veut dire que ces déchets appartenaient à quelqu'un. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le propriétaire, entre guillemets, des déchets qui est responsable?
Le propriétaire, c'est l'entreprise qui est chargée de faire les travaux. Ouais. Hein, donc, il s'engage. D'ailleurs, c'est prévu dans leur devis, hein, de pouvoir, après, se débarrasser des déchets. Donc c'est à eux aussi de faire les démarches.
Vous leur avez demandé de venir récupérer leur cochonnerie?
Moi, j'ai pas eu l'occasion, puisqu'on n'a pas trouvé vraiment de personne. Ça nous est arrivé sur la ville, mais à d'autres endroits. Mais dans cette plaine, là, non.
Jusqu'à ce que des blocs de béton soient posés récemment aux entrées des chemins menant à la décharge sauvage, rien n'a donc vraiment été fait pour arrêter le processus. Et pour certains propriétaires, il pourrait y avoir une raison à cela, le prix des terrains. Retour sur le plateau avec Bruno Piva, l'un des propriétaires d'une parcelle sur la plaine.
Bon, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, l'État veut racheter les terrains aux propriétaires. Bon, les propriétaires se battent depuis 20 ans pour essayer d'avoir un peu plus que 3 euros le mètre carré. Eux, ils veulent un peu plus quand même, c'est normal. Je veux dire, 3 euros pour revendre après, peut-être dans 20 ans ou 30 ans, aux promoteurs. Parce que bon, faut pas rêver, hein, ici, dans 30 ans ou 40 ans, ce sera construit. Hein.
C'est-à-dire que les déchets permettent de garder des prix.
Ah, bas. Ça, il y en a qui disent ça, parmi les propriétaires. Maintenant, est-ce que c'est vrai?
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes propriétaire ici aussi?
Ouais, moi je suis propriétaire, ouais. Moi, je pense qu'il y a une partie de ça quand même. Hein. On laisse traîner. Après, l'État va dire vos terres sont polluées, donc ça coûte moins cher. Voilà.
Joël Mancel, le fait est que toutes ces terres qui sont sur le plateau coûtent très peu cher. On m'a dit que c'était 3 euros du mètre carré, quelque chose comme ça.
Entre 3 et 5, oui.
Et alors, certains mauvais esprits pensent que... on a laissé faire parce que ça permettait de garder les prix bas.
Les prix ont été fixés lorsque les carriers ont fait les extractions de sable. Le prix a été fait à ce moment-là. Donc il était bas, il était actualisé, puisque à l'époque, on ne parlait pas d'euros, mais on parlait de francs. Il était actualisé, et c'est vrai que ça correspond entre 3 et 5 euros, quoi. C'est le tarif.
D'après le maire de Triel-sur-Seine, les prix auraient donc été fixés dans les années 60, quand on a pris le sable de la plaine pour construire l'autoroute de Normandie. Et que va-t-il se passer dans l'avenir? Y a-t-il des projets de construction ou de zones économiques?
Non.
Joël Mancel.
Non, parce que y a des zones qui sont réservées au développement économique. Donc là, on a une implantation peut-être d'un centre de stockage qui existe déjà, mais qui veut s'agrandir, de Lidl.
Officiellement donc, rien de prévu à part des entrepôts. Néanmoins, quand la secrétaire d'État à l'environnement, Brune Poirson, est venue visiter la mer de déchets il y a quelque temps, elle a promis 800 000 euros au Grand Paris Seine-et-Oise pour commencer à déblayer la plaine. C'est un bon début, même si c'est loin d'être suffisant, car on parle maintenant de 4 millions d'euros nécessaires pour nettoyer la boucle de Chanteloup. Quittons maintenant la mer de déchets pour le nord de l'île de France. En route pour Laigneville, une petite ville située à 80 km de Paris, dont le maire Christophe Dietrich a appliqué une méthode radicale pour se débarrasser des dépôts sauvages, le retour à l'envoyeur. Christophe Dietrich, bonjour. Vous êtes le maire de Laigneville et un maire depuis 2014 particulièrement actif sur le problème de déchets sauvages auquel vous avez été confronté. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par le début de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous saisissiez ce problème à bras-le-corps? Oui.
En fait, il se trouve que tous les midis, je vais courir avec mon chien, je fais mes 10 km tous les midis dans la forêt, dans les champs à Laigneville. Et régulièrement, plusieurs fois par semaine, je découvrais de nouveaux tas de déchets sauvages, principalement des déchets de chantier. Et ça devenait carrément insupportable parce que mes services techniques passaient 2 jours à ne faire que ça, à ramasser les déchets et à les amener ensuite à la décharge. Donc ça avait un coût en personnel, un coût en véhicule et un coût en retraitement de déchets. Ça représentait environ 30 000 euros par an au total. Et puis, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés avec près de 7 tonnes de déchets sur un même site. À la sortie de la ville, on avait aussi un tas de déchets qui représentaient à peu près 30 tonnes. Et donc là, il y a un moment, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose rapidement. Et donc, comme j'étais policier, donc j'ai repris mes vieux réflexes et j'ai commencé à enquêter sur les origines des déchets qu'on retrouvait. Très rapidement, on a fini par retrouver pratiquement dans 100% des cas l'origine des déchets. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a systématiquement déposé plainte avec toutes les preuves qu'on donnait au procureur. Toutes les plaintes, absolument toutes les plaintes, pendant un an, toutes les plaintes qu'on a déposées ont été classées sans suite. Et alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait qu'ensuite, on est passé à une autre méthode, c'est que, je me rappellerai toujours de ça, à 11h du matin, je reçois un courrier recommandé du procureur qui m'explique que la dernière plainte a été classée sans suite au motif que, puisque la commune avait nettoyé les lieux, il n'y avait plus d'infraction. Et là, j'étais dans une rage folle, mais vraiment, c'était... Parce qu'il faut savoir quand même que la bêtise du truc, la stupidité du truc, fait que la personne qui dépose des déchets n'est pas poursuivie, mais si quelqu'un se blesse avec ses déchets, c'est le maire qui est poursuivi. Donc c'est complètement aberrant.
Alors vous avez mené l'enquête, hein, Christophe Dietrich. Alors,
voyez,
qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est l'écarlage du tout premier retour à l'envoyeur. Vous voyez, ils sont très, très caractéristiques. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur le tas de déchets. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur le chantier.
Voilà, donc on a deux morceaux de carreaux, effectivement, qui sont blancs, avec des petites fleurs roses, et effectivement.
Ils sont très caractéristiques. Donc là, j'ai pas eu de mal à trouver l'origine. On a des choses assez étonnantes. Alors ça, c'est la capsule qu'on retrouve, vous savez, sur les fûts de bière dans les bars. D'accord. J'avais reçu 2 mètres cubes de déchets d'un bar, mais je ne savais pas d'où. Et donc, grâce à ces différents numéros, et sur des recherches sur Internet, j'ai appelé le fabricant. Je lui ai donné le numéro de série. Il m'a dit, je vous rappelle. Et il m'a dit, voilà, j'ai servi ce fût il y a 2 ans dans un bar à Bornel, à 40 km d'ici. Donc on est allé à Bornel et effectivement, le bar était en travaux, c'était bien les déchets du bar de Bornel. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un nom ou une adresse. Des fois, un numéro de téléphone, un numéro de code barre, un truc comme ça, ça suffit. Le tout, c'est de savoir trier l'information et de l'exploiter.
Christophe Dietrich a donc décidé de renvoyer les déchets à leurs propriétaires. Au début, il les faisait livrer directement devant leur porte et maintenant, il fait venir les responsables dans la cour de la mairie et les oblige à repartir avec, après leur avoir infligé une amende. Et pour empêcher de nouveaux dépôts, la mairie cache de petites caméras aux entrées des chemins.
Ah, oh, pardon.
Allez-y, installez-vous. Il n'y a rien qui crée un problème. Celle-là, c'est celle de la mairie, heureusement.
Christophe Dietrich, là, on va où?
Alors là, je vais vous montrer un endroit où on a mis une caméra de chasse. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment on positionne les choses et comment on travaille aussi par rapport à ça. Et puis ensuite, on va aller à un endroit où on avait 30 tonnes de déchets qu'on a fait enlever et qu'on a sécurisé, justement, en mettant des blocs de pierre et en rendant les lieux à nouveau inaccessibles.
Donc, voilà, c'est un lieu qui était propice au dépôt sauvage. Qui oui, est toujours, là, d'ailleurs. On retourne à gauche sur un petit chemin.
Voilà, qui donne après en bordure de forêt. Alors là, c'est ce qu'ils adorent les gens pour venir déverser leur merde. Un petit chemin facilement accessible en bordure de forêt pour vite vider les déchets et partir en courant. Sauf qu'à l'entrée du chemin, eh ben, on a mis une caméra de chasse que je vais vous montrer. Donc là, on est en limite de commune entre Laigneville et Coffry. Le chemin que vous avez là en face de nous. À gauche, c'est Laigneville, à droite, c'est Coffry. Et là, ici, sur cette entrée de propriété, qui aujourd'hui est abandonnée, il y avait 30 tonnes de déchets là-devant. 30 tonnes. Et c'était une verrue. Et lorsqu'on a commencé à faire des retours à l'envoyeur, on n'a pas traité cet endroit-là tout de suite. Et c'était assez marrant parce que quand on a commencé à faire du retour à l'envoyeur et que ça commence à se savoir, les gens qui venaient de déposer les déchets ici, ils le faisaient en roulant pour ne pas se faire attraper. C'était énorme. Donc on avait des déchets sur des fois 50 ou 100 mètres. Et donc, avec le maire de Coffry, on s'est mis tous les deux pour faire ce qu'il faut pour évacuer ces 30 tonnes de déchets. Ça nous a coûté un peu plus de 10 000 euros. Mais on a évacué ces 30 tonnes en une journée. Et c'est là où, quand même, vous voyez que les gens sont partie prenante. On cherchait à sécuriser le lieu. Et il y a un entrepreneur de Laigneville qui m'a dit « Mais moi, j'ai des rochers, bougez pas. Je redescends avec mon tractopel et je vous les descends. » Et en une demi-journée, on avait évacué les 30 tonnes. Il nous a mis les rochers, c'était terminé. Voilà. Et parce que tout le monde y a mis du sien. Les élus, la population. Et puis, voilà, un entrepreneur qui passe au moment où on fait ça, il dit « Bah attendez, bougez pas, moi j'ai un truc pour vous, je vous le mets. » Et voilà, quand ça se passe comme ça, c'est du bonheur.
La méthode de Christophe Dietrich semble avoir porté ses fruits, puisqu'en 2019, il n'y a eu que 2 dépôts sauvages de déchets à Laigneville.
Déchets sauvages, halte à l'invasion, un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisation Pierre Chaffonjon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.
Appelez-nous.